à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 12 novembre 2018. République démocratique du Congo, l'UDPS refuse l'accord désignant Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition et demande à Tshisekedi de maintenir sa candidature. Libération de 3 otages dont 2 élèves qui avaient été kidnappés avec 79 autres à Bamenda au Cameroun. Le tribunal militaire de Douala a abandonné les poursuites contre la journaliste Mimi Mefo. Visite à Bamako de la ministre française des Armées Florence Parly et son homologue allemand Ursula von der Leyen. États-Unis, au moins 31 morts à ce jour dans l'incendie du nord de la Californie. La Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. Manifestation ce lundi à Kinshasa au siège de l'UDPS et de l'UNC. Les militants des partis de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe demandent à leur leader de retirer dans les 48 heures leur signature de la déclaration de Genève qui a désigné hier Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous rejetons avec force cette décision de Genève. Nous l'appelons même une supercherie, un complot contre la République, a dit Jean-Marc Kabunda Kabund, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, devant des militants surexcités. Notre base rejette catégoriquement la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Elle n'accepte pas la blague qui s'est faite à Genève et demande à son président, Félix Tshisekedi, de retirer sa signature et de rentrer au plus vite au pays pour entamer la campagne électorale, a-t-il poursuivi, sous les acclamations d'un public venu nombreux et de bonne heure, sous la pluie au siège de l'UDPS, a limité, manifesté son opposition à la désignation de Martin Fayulu au détriment de Félix Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018. Manifestation de colère ce lundi également au siège de l'UNC. Les militants du parti de Vital Kamerhe ont également dit leur opposition à la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Ils accordent 48 heures à leur leader pour retirer sa signature de la déclaration de Genève. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et aux toutes dernières nouvelles, et selon notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa, Félix Tshisekedi a cédé à la pression des militants de l'UDPS et a donc retiré sa signature de l'accord de Genève. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les poursuites contre la journaliste anglophone camerounaise Mimi Mefo, qui avait été inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État, ont été abandonnées par le tribunal militaire de Douala, a annoncé son avocate. Le tribunal a ordonné l'arrêt des poursuites et le classement du dossier, a déclaré maître Alice Nkom. La journaliste a été remise en liberté samedi après son arrestation 2 jours plus tôt. Après sa libération, le porte-parole de l'armée Didier Badjek avait indiqué sur les réseaux sociaux que la décision avait été prise personnellement par le président Paul Biya. Vaste coup de filet dans les milieux militaires en Éthiopie. 27 personnes travaillant pour l'armée et des policiers ont été interpellées. Selon le procureur général, c'est l'aboutissement de 5 mois d'investigation anticorruption. Bagassi Koura pour les détails.
Ce dernier développement porte à 63 le nombre total de personnes arrêtées dans cette opération de lutte anticorruption. Le procureur général Beranou Segaï a déclaré plus tôt que 36 responsables de la sécurité avaient été arrêtés pour suspicion de corruption et abus de droits humains. Il n'a pas précisé quand les arrestations ont été faites, mais les médias avaient déjà commencé à en parler depuis vendredi et tout au long du week-end. Selon le procureur, pendant 6 ans, les suspects ont passé des marchés internationaux totalisant 2 milliards de dollars sans appel d'offres. En août dernier, le gouvernement avait écarté la commission des marchés de l'armée d'un projet de barrage d'environ 4 milliards de dollars.
La ministre française des Armées, Florence Parly, et son homologue allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, se sont retrouvés ce lundi à Bamako pour discuter de l'application de l'accord de paix au Mali et de la force conjointe du G5 Sahel. On a besoin d'avoir la connaissance et l'expérience des Maliens en ce qui concerne les conflits, a souligné la ministre allemande à l'issue d'une rencontre avec le premier ministre Soumeilou Boubeï-Maïga. Madame von der Leyen est arrivée dimanche soir pour assister à la prise de commandement par l'Allemagne de la mission européenne de formation de l'armée malienne. Les deux ministres devaient rencontrer également le général mauritanien Anenaoult Sidi, commandant de la force du G5 Sahel. Ouverture à Palerme en Italie d'une conférence internationale sur la Libye, des résultats qui sont d'ores et déjà menacés par l'incertitude entourant la présence en Sicile du maréchal Haftar, homme fort de l'est du pays. Nani Talani.
Énième tentative de sortir la Libye de l'ornière, cette conférence suit celle de Paris en mai dernier qui avait abouti à un accord sur la date du 10 décembre pour des élections nationales. Les Nations Unies ont toutefois annoncé jeudi que le processus électoral a été retardé et devrait finalement démarrer au printemps 2019. La conférence de Palerme est un pas fondamental dans l'objectif de la stabilisation de la Libye, estime Gaston Salamé, envoyé spécial de l'ONU.
Nous pensons que les conditions sont plus propices au retour au plan d'action et ce que nous avons l'intention de faire en appelant d'abord les Libyens à se rencontrer, de préférence sur le sol libyen, et à se mettre d'accord sur un certain nombre de questions en suspens. Par exemple, ce qu'il en est du cadre constitutionnel, les dates des élections, que faire de la mauvaise distribution de la richesse, et ensuite on pourra aller aux élections.
Mais cette nouvelle conférence est déjà fragilisée avant même son coup d'envoi par le refus du maréchal Khalifa Haftar d'y participer, selon des médias libyens proches de ce militaire dont les forces contrôlent la plus grande partie de l'est du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le feu Campfire dans le nord de la Californie a fait 31 morts à ce jour. Et Kabadou, ce bilan va probablement s'alourdir, n'est-ce pas?
Oui, parce que les autorités affirment que 228 personnes sont toujours portées disparues. 8000 pompiers sont mobilisés pour combattre le Campfire au nord de la Californie, le feu de Woolsey et les feux de montagne dans le sud de cet état de l'ouest du pays. Des milliers de personnes ont déjà été évacuées, 29 personnes ont péri au nord dans les flammes et 2 sont mortes dans les feux de Woolsey. Les feux menacent environ 75 000 habitations dans le comté de Ventura, dans le nord-ouest de Los Angeles, où 12 personnes ont été abattues dans une tuerie de masse la semaine dernière. Le maire de la ville de Thousand Oaks, où la tuerie a eu lieu, affirme que le tiers de sa ville est sous mandat d'évacuation.
L'Iran continue de respecter ses engagements liés à l'accord nucléaire de 2015, affirme l'Agence internationale de l'énergie atomique, une semaine après l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran. L'agence onusienne atteste que l'Iran n'a pas enrichi d'uranium à des degrés prohibés ni constitué de stocks illégaux. Washington a achevé le 5 novembre de rétablir les sanctions que les États-Unis avaient levées conformément à l'accord dont ils se sont désengagés en mai dernier. Ces jours fériés ce lundi ici aux États-Unis, au lendemain du Veterans Day, la journée des anciens combattants, le président Donald Trump est de retour à Washington après avoir pris part à Paris aux cérémonies du centenaire de l'armistice ayant mis fin à la Première Guerre mondiale. Il s'en est pris à l'Europe au sujet des questions militaires et commerciales. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Dans une série de messages sur Twitter, le président Trump a dit avoir beaucoup accompli durant ses rencontres avec d'autres leaders mondiaux à Paris. Il a dit avoir abordé la question de l'injuste traitement dont font l'objet les États-Unis de la part de leurs alliés européens, notamment concernant les dépenses militaires en faveur de l'OTAN et un déficit commercial de 101 milliards de dollars en faveur de l'Europe en 2017. Nous payons une grande portion des dépenses de protection d'autres pays, des centaines de milliards de dollars, pour le grand privilège de perdre des milliards de dollars dans le commerce avec ces mêmes pays, s'est plaint le président américain dans un autre tweet. Pour le chef de l'exécutif américain, cette situation injuste ne peut pas continuer. D'importants montants d'argent dépensés pour protéger les autres pays et nous ne gagnons rien d'autre que des déficits commerciaux et des pertes. Il est grand temps que ces pays très riches paient les États-Unis pour leur superbe protection militaire ou alors se protègent eux-mêmes et le commerce doit être libre et équitable, a averti le président Trump sur Twitter.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
L'Angola va recevoir plus de 966 millions de dollars de la part du Royaume-Uni pour financer des projets de développement des secteurs comme la santé, l'énergie et l'eau. Les transports, les finances, les ressources minérales et le pétrole devraient monopoliser ces investissements dans une stratégie de diversification des sources de financement de l'économie angolaise. Au Ghana, Cowtrab, une start-up qui commercialise des vaccins et des services de santé animale à des éleveurs et agriculteurs, obtient un financement de 300 000 dollars auprès de Draper Richard Kaplan, une fondation américaine. Déjà présent dans 4 régions au Ghana, Cowtrab veut couvrir l'ensemble du pays et envisage d'étendre ses activités dans d'autres pays africains, notamment au Mali et au Burkina Faso. Depuis son lancement, cette société a vendu des vaccins pour plus de 100 000 dollars à 30 000 agriculteurs ghanéens installés dans des villages et des zones rurales du pays. Terminons avec l'Arabie Saoudite qui estime indispensable de réduire la production mondiale de pétrole d'1 million de barils par jour afin d'équilibrer le marché au moment où la baisse des prix de l'or noir fait craindre un effondrement des cours comme en 2014. Riyad, le premier producteur au monde, allait réduire sa propre production et diminuer en décembre ses exportations de 500 000 barils par jour par rapport à novembre. Toutefois, toute décision officielle concernant une baisse de la production mondiale sera prise lors d'une réunion plénière prévue le 5 décembre à Vienne entre les pays non producteurs de pétrole et les 14 membres de l'organisation.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le match de la Sierra Leone a encore été annulé.
Et oui, tout comme le mois dernier, la Sierra Leone ne participera pas à la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 ce week-end. Le pays reste suspendu par la FIFA. Le Kenya, adversaire initial, devra se trouver un autre adversaire pour un match amical durant cette trêve. Considérant que la Sierra Leone est toujours suspendue par la FIFA, le match ci-dessous n'aura pas lieu, peut-on lire dans un courrier de la CAF. Le mois dernier déjà, la double confrontation entre Lone Stars et Black Stars du Ghana a été annulée suite à la situation des crises à la Fédération Sierra Lyonnaise de football. Depuis, les différentes parties se sont rendues à Zurich pour échanger avec la FIFA et trouver une porte de sortie. Mais rien encore à l'horizon.
Le Ghana tient sa sélection finale pour la CAN féminine.
Oui, à 5 jours du début de la compétition, le Ghana pays hôte a dévoilé une liste de 21 joueuses retenues pour le tournoi. Un groupe dans lequel on retrouve notamment Faustina Ampa et Portia Boaki. Les Black Queens doivent cependant faire sans Sandra Owusu, blessée et forfaite. Les filles de Bashir Hayford ont bouclé leur préparation hier à Accra avec une victoire en amical devant l'Afrique du Sud. Logé dans le groupe A, le Ghana sera face à l'Algérie, au Mali et au Cameroun.
En Europe, Solari a été confirmé à la tête du Real Madrid.
Nommé provisoirement fin octobre au lendemain d'une humiliation dans le Classico à Barcelone 5-1, l'ancien technicien de la réserve devait en principe succéder à Rulén Lopetegui, limogé pour insuffisance de résultats. Santiago Solari a été confirmé comme entraîneur de plein exercice à la faveur d'un spectaculaire redressement de l'équipe merengue, 4 victoires en autant de rencontres. Alors que son mandat, limité à 2 semaines par le règlement, arrivait à son terme aujourd'hui, l'Argentin de 42 ans a vu donc son contrat homologué pour une durée non dévoilée.
Allegri a été désigné meilleur entraîneur de la saison 2017-2018.
L'entraîneur de la Juventus Turin a reçu le trophée Pancini d'Oro 2017-2018, qui signifie Ballon d'Or, du meilleur entraîneur de Serie A. La saison dernière, les Bianconeri ont remporté le championnat d'Italie devant Naples, la Coupe d'Italie contre l'AC Milan 4-0. Par ailleurs, ils ont été éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. C'est la quatrième fois que Massimiliano Allegri, en poste depuis juillet 2014 à la Juve, remporte ce prix. Après l'avoir reçu avec la Vieille Dame en 2015 et 2017 et avec Cagliari en 2009.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo, l'opposition prépare l'échéance. Ses principaux leaders réunis ce week-end à Genève en Suisse ont désigné hier Martin Fayulu comme candidat unique à l'élection. Le député est également le président du parti d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement. Mais coup de théâtre ce lundi même, en effet, aux dernières nouvelles. Et selon notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa, Félix Tshisekedi a cédé à la pression des militants de l'UDPS et a donc retiré sa signature de l'accord de Genève. Avant ce développement, John Linden a joint à Bruxelles le journaliste Henri-Désiré Nzouzi pour une analyse.
Il y a deux hypothèses à envisager par rapport au choix de Fayulu. Il y a d'abord l'hypothèse arithmétique. Au moment où sa désignation a été donc effective, c'est effectivement de voir dans quelle mesure les différents protagonistes ont porté leur choix sur tel ou tel candidat. Et finalement, les calculs ont fait que ce résultat soit apparu, même si, avec le recul, certains peuvent se sentir floués ou, je dirais, surpris. L'autre hypothèse, c'est que les gros candidats n'avaient peut-être pas finalement intérêt à être désignés dans la mesure où ils ont peut-être déjà anticipé sur un report des élections. Ce qui, très clairement, signifie que le candidat commun pourrait, dans les semaines qui suivent, dans l'hypothèse d'un report, n'avoir finalement plus qu'un statut sans réelle consistance, puisque le processus pourrait être remis à plat à la faveur de ce report et donc d'une transition qui pourrait se dessiner.
Et qu'est-ce qui pourrait justifier un report ?
Eh bien, tout simplement, l'incapacité de la CENI à pouvoir déployer de manière intégrale le dispositif électoral sur l'étendue du territoire. C'est un premier élément. Et deuxième élément, peut-être dans un élan de décrispation, permettre peut-être de retirer progressivement la machine à voter et peut-être même d'appeler à un nettoyage du fichier électoral, ce qui fait partie des revendications actuelles de l'opposition.
Alors, vous parliez de machine à voter, elle continue de diviser et Martin Fayulu est l'un des leaders qui s'oppose à son utilisation dans le cadre de la présidentielle. Comment entrevoyez-vous l'issue de cette situation ?
Écoutez, c'est très compliqué. Il faut quand même rappeler que dans l'accord de coalition qui a été signé à Genève, il est prévu que le candidat commun qui a été désigné devra s'engager, en cas d'élection, à n'effectuer qu'un demi-mandat, c'est-à-dire de 24 à 30 mois. En d'autres termes, si M. Fayulu devait être élu, il devra écourter son mandat pour uniquement se consacrer à une révision constitutionnelle et une révision de la loi électorale qui reviendrait à la situation antérieure, c'est-à-dire deux tours de scrutin, et ça permettrait aux candidats actuellement invalidés et disqualifiés de revenir dans le jeu. On voit très bien toute la difficulté de la tâche de M. Fayulu, indépendamment du fait qu'il souhaite éviter l'utilisation de la machine à voter.
Et pour qu'il gagne cette élection, quelle devrait être la stratégie de l'opposition, à votre avis ?
Être unis, ce qui est loin d'être acquis, puisque depuis maintenant 24 heures, toutes les bases, c'est-à-dire appartenant aux candidats malheureux qui n'ont pas été désignés à Genève, s'opposent fermement à la désignation de Fayulu, ce qui pose déjà un sérieux problème. Donc si l'opposition ne fait pas la démonstration de son unité, de toute manière, quel que soit le cas de figure, elle sera perdante.
C'était Henri-Désiré Nzouzi, journaliste et analyste politique.
Ekiabadou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. Martin Fayoulou sera le candidat unique de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Le député national de 62 ans, élu de Kinshasa en 2011, a été choisi hier à Genève en Suisse à l'issue de plusieurs jours de négociations. Comment avez-vous accueilli ce choix ? Estimez-vous que les oppositions en Afrique devraient toujours désigner un candidat unique ? Laissez-nous votre numéro de téléphone et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33.
À Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'instabilité sécuritaire et l'épidémie d'Ebola perturbent le tissu économique de cette région du Nord Kivu, où les champs sont moins fréquentés. À ce propos, la Fédération des entreprises du Congo et la société civile locale demandent au gouvernement d'alléger les taxes pour soulager les habitants. Voici un reportage de notre correspondant Charlie Kazereka.
Au marché comme dans les magasins, les commerçants ont presque la même phrase. Tous ils disent qu'il n'y a plus d'acheteurs. Au grand marché de Beni, Marceline Kavira, revendeuse de maïs et du riz, ne sait plus où se ravitailler. Même les clients se font de plus en plus rares.
Nos clients venaient souvent de Kinshasa, Goma et Kisangani. Ils n'arrivent plus à cause des massacres ici, à Beni. Même nous, il est actuellement difficile d'aller chercher la marchandise à cause de l'insécurité sur les routes. Les dépôts sont vides, alors qu'auparavant, nous manquions des places pour la marchandise.
À quelques pas de l'entrepôt de Marceline, Mohindo Mastaki demande le retour de la paix. Il est revendeur de divers produits manufacturés.
La guerre et Ebola font fuir les habitants de Beni. Avant, j'arrivais à écouler entre 6 et 10 matelas par jour. Il est difficile aujourd'hui de vendre même un matelas par semaine. D'ici peu, nous allons, je pense, fermer nos commerces. Ça ne marche plus.
La Fédération des entreprises du Congo fait qu'en sigle, section de Beni, réclame depuis 3 ans la suppression de certaines taxes pour soulager la souffrance des entrepreneurs. Lukando Maliabwana, secrétaire de la FEC au marché de Beni, explique au micro de VOA Afrique.
Nous sommes incapables vraiment de payer les taxes de l'État suite à la guerre. Nous dépendons d'abord des agriculteurs. C'est ça l'économie de Beni. En tout cas, pour nous, la FEC marché, nous demandons aussi que la mairie ou bien notre gouvernement de baisser les taxes à nos opérateurs économiques. Les routes aussi soient en tout cas bien entretenues.
Les maires de la ville de Beni reconnaissent la situation difficile des entrepreneurs dans cette région, mais explique que la suppression de ces taxes entacherait le travail administratif de sa juridiction. Nyoni Bwanakawa, maire des villes.
Vous savez, la ville de Beni, le territoire de Beni sont tous à vocation agricultrice. À partir du moment où, à cause de l'activisme des EIDF, les populations ne savent plus aller au champ, il est normal que les tissus économiques en soient ainsi touchés. Une décision comme celle-là ne peut pas être sans compensation au niveau du pouvoir central vis-à-vis des entités territoriales décentralisées qui sont concernées et aussi vis-à-vis des provinces.
Avec ses 700 000 habitants, tous les villages ont été vidés de leurs occupants suite à l'insécurité et des tueries à répétition. En plus de l'insécurité, cette région est confrontée à l'épidémie à virus Ebola depuis août dernier et qui a déjà fait plus de 200 décès. Charles Kasereka, des retours de Beni, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République du Congo, la population doit supporter 45 jours de coupures d'électricité qui ne prendront fin que le 5 décembre. Les autorités expliquent ces délestages par la maintenance d'une centrale à Pointe-Noire. C'est une situation préoccupante pour de nombreux habitants, d'autant plus que Brazzaville connaît aussi des pénuries d'eau et de carburant. Notre correspondant Arsène Séverin nous en dit plus.
C'est depuis le 21 octobre dernier que les Brazzavillois font face à d'intempestives coupures d'électricité. Ceux dont les activités dépendent du courant en souffrent le plus. Arsène Vembe tient un office d'informatique à Bakongo.
Je suis en train de faire des recettes, soit de 2000 ou 1500 francs la journée, tandis que j'étais à 15 ou 60 quelques mille. Et aujourd'hui, j'ai eu un marché, parce que je devais faire des tickets pour une grande manifestation. Mais je ne peux pas travailler parce que mon imprimante, qui prend plus de courant, ne peut pas travailler.
Ici à Wenze, les plaintes sont nombreuses, surtout lorsqu'il s'agit de pénurie d'eau et de carburant.
Aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe et on ne vous dit rien. Le prix d'essence, par exemple, à la pompe, c'est vendu à 595 et à la cité, c'est à 2000 francs le litre. Que peut faire quelqu'un qui tient un salon de coiffure?
Il y a Imboulou, il y a Moukoukoulou, il y a Liweso, il y a je ne sais pas quoi d'autre. Il y a la centrale de gaz à Pointe-Noire. Le Congo était excédentaire en courant. Maintenant, il est où? Il nous expliquait, le monsieur des grands travaux, j'oublie son nom, gouverner, c'est prévoir. Ça fait 3 jours que je ne me lave pas. Pour avoir un filet d'eau, il faut se lever vers 4 heures du matin et peut-être en 2 heures, vous pouvez remplir une bassine de 20 litres. Alors, pour se laver, c'est compliqué.
Mais souvent ici, là, ça va parfois 10 heures et jusqu'à 18 heures. Bon, à 18 heures, on ne peut plus travailler.
Dans de nombreux ménages, on a cessé de faire des prévisions et les soirées de football sont vécues dans la rue. Dimitri Miki de Mungali.
On est obligé de se débattre, d'aller chercher par-ci, par-là dans les ciné-foot pour suivre le match. Hein? Sinon, à la maison, vous avez payé l'abonnement, mais bon, ça passe comme ça. Sans pourtant suivre le match, vous êtes obligé de vous donner un rond-point, par exemple, là, les écrans géants pour suivre le match.
Et pourtant, la peine n'est pas à sa fin. La direction de distribution de la société d'électricité annonce la fin de ses délaissages le 5 décembre. Selon la société, les coupures sont équitablement réalisées sur tous les quartiers de Brazzaville pour permettre à tous de bénéficier du peu de courant, c'est-à-dire les 120 mégawatts qui sont actuellement servis. Pour les associations de défense des droits de consommateurs, la rotation des coupures n'est pas équitable. Mais Amos Babunga est le secrétaire exécutif de l'Association congolaise de défense des droits de consommateurs.
Les consommateurs sont beaucoup lésés dans la mesure où il y a plus de jours où ils n'ont pas d'électricité. Quand l'électricité arrive, c'est généralement la nuit où les gens dorment déjà.
Baudouin Mwanda, célèbre photographe à Brazzaville, travaille depuis quelques années sous les coupures de courant dans la capitale. Cette fois-ci, ses photographies nourrissent les réseaux sociaux.
Quand je photographie, je raconte une scène de délestage dans les marchés. Ça ne veut pas seulement dire qu'il n'y a qu'un dans le marché, dans plusieurs cités.
Les Brazzavillois se demandent bien si ces 45 jours sonneront définitivement la fin des délestages. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Zimbabwe, voilà un an que Robert Mugabe a été contraint de quitter le pouvoir. Alors âgé de 92 ans, l'ancien président laissait derrière lui un pays coupé de la communauté internationale avec une économie faible. Un an après, qu'est-ce qui a changé et qu'en pensent les Zimbabwéens? Un élément de réponse avec John Lyndon.
C'était il y a un an, alors même que personne ne s'y attendait, Robert Mugabe est débarqué du pouvoir, en douceur, par l'armée, qui réagissait ainsi au limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa. Impensable pour celui-là qui, pendant 37 ans, a fait régner la terreur dans le pays. La fin du régime répressif de Robert Mugabe avait alors suscité une explosion de joie dans les rues d'Harare. Un an plus tard, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, estime Michael Mabunzi, un habitant de Harare.
Je ne pense pas que beaucoup de choses aient changé, malgré ce qu'on peut lire dans les journaux ou ce que nous avons entendu à la télévision. Rien n'a changé, au contraire, la situation s'empire.
L'euphorie observée après la chute de Mugabe s'est donc évaporée. Les restrictions aux libertés fondamentales demeurent, la situation économique ne s'est guère améliorée. Conséquence, des longues files d'attente devant les banques, les pénuries de produits de première nécessité et des enseignants en colère. Raymond Majungwe dirige le syndicat des enseignants progressistes du Zimbabwe.
Nous sommes les enseignants les moins bien payés de la région. Nous sommes moins bien payés qu'au Malawi. Nous sommes moins bien payés qu'au Mozambique. et pourquoi le gouvernement irait jusqu'à imposer des taxes aux enseignants déjà si mal payés.
Emmerson Mnangagwa a promu une ère nouvelle aux Zimbabwéens, avec notamment des réformes au niveau de l'économie, de la démocratie et surtout un rétablissement des relations avec la communauté internationale et les institutions financières dont les sanctions continuent de peser sur le Zimbabwe. Energy Mutudi, vice-ministre de l'Information du Zimbabwe.
C'est une période très très active pour nous et nous sommes impatients de renouer un engagement sérieux avec la communauté internationale en ce qui concerne nos dettes internationales avec des institutions multilatérales telles que la Banque mondiale et le FMI. Je crois que ce sont des institutions dont nous avons besoin pour pouvoir nous remettre sur pied.
En septembre, l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 2010. La santé n'est pas en reste, les médicaments sont rares dans le pays et nul ne sait à ce jour de quels médicaments le Zimbabwe aura besoin pour se relever.
Voilà, c'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Joselle Morissin. À la présentation, Nathalie Barge. Bonne soirée en compagnie de Henri Francisque pour un rappel de l'actualité dans le monde.
VOA Afrique.